Seconde invitée, à savoir Corinne Marcier de la Marche mondiale des femmes, qui est aussi la trésorière au niveau Occitanie, mais aussi au niveau national, c'est ça ?
Tout à fait. Merci de nous recevoir. On n'a pas beaucoup d'argent à gérer, donc ça va.
Bonjour.
Bonjour.
Donc là, si je vous ai invitée, c'est parce qu'en fait, c'est pour les 10 ans du Rana Plaza, cette catastrophe au Bangladesh où de nombreuses ouvrières étaient mortes puisque le grand bâtiment s'était effondré. Et donc vous avez décidé, la Marche mondiale des femmes, de tous les ans, le 24 avril, de le commémorer, on peut dire comme ça.
Exactement.
De revenir sur ça et surtout de... tant faire se peut que ce genre de choses ne se renouvellent pas. Quoi.
Voilà, tout à fait. Donc, la Marche mondiale des femmes, c'est un mouvement international. Mmh. Donc, on a pris la décision collective au niveau international, chaque 24 avril, de mener, si possible, les 24 heures de la solidarité avec les femmes victimes des exploitations des multinationales de par le monde. Mmh. D'abord, pour ne pas oublier toutes les victimes de ces immeubles effondrés.
C'est terrible, quoi.
Donc cet immeuble accueillait plusieurs ateliers de confection qui travaillent pour les grandes marques, notamment européennes.
Et qui sont vendues
à bas prix, avoir beaucoup trop de vêtements à disposition dans nos magasins.
C'est dingue, quoi, parce que... parce que j'ai regardé un peu, je suis revenue sur l'histoire du Rana Plaza, et j'ai lu que dans ce grand immeuble, donc il y avait des ateliers de confection, mais qu'il y avait aussi des banques, et qui, eux, ce jour-là, n'étaient pas, puisqu'il y avait eu une fissure, et qu'elles, on leur a obligées à y aller. C'est terrible. Quoi.
Terrible. Beaucoup de femmes, il y avait quelques hommes, et des enfants.
En majorité, je pense. Oui, parce qu'il y avait une crèche aussi.
Mais il y a aussi des enfants qui y travaillent dans les ateliers. Voilà. Oui. Et donc, ils s'étaient rendus compte que cet immeuble avait donc été fissuré et refusaient d'y entrer parce qu'ils avaient peur, à juste titre. Oui. Et donc, on les a menacés de perdre leur emploi.
Mais c'est horrible.
Donc,
ils ont perdu leur vie.
Ils ont perdu leur vie et d'autres ont survécu, mais en étant soit traumatisés, soit blessés gravement.
Oui. Voilà. J'imagine.
Donc après, il y a eu chaque année donc la nécessité de rendre compte que cela existe de par le monde et les premières années de les accompagner, bien sûr avec d'autres associations, sur des revendications de prise en charge par les sociétés donneuses d'ordre.
Exploiteuses, entre guillemets, c'est comme ça.
Comme des sociétés, on peut en citer quelques-unes, H&M, Zara, Mango et compagnie. Mais d'autres de vêtements un peu plus luxueux.
Oui, de marques, parce que il y a ça aussi, il faut le savoir.
Et donc, je crois à ce jour que toutes, on va dire, ont payé. Des indemnités aux familles et des indemnités aux victimes toujours vivantes mais malheureusement blessées,
handicapées ou traumatisées simplement parce que de quoi.
Et ensuite il y a eu des actions menées pour que dans la mesure où ils sont donneurs d'ordre alors qu'ils ont leur siège dans des zones européennes où il y a une meilleure qualité du droit du travail qu'ils s'obligent à respecter de meilleures conditions de vie, de travail et de rémunération quand ils donnent leurs ordres à l'étranger.
Mais est-ce que d'un point de vue juridique, toutes ces grandes enseignes, enfin tous ces, souvent ce sont des multinationales d'ailleurs qui possèdent plusieurs marques, est-ce qu'il est possible de... je sais pas comment dire, de faire en sorte qu'elle soit un peu plus regardante sur les droits.
Ben c'est très compliqué parce qu'elle sous-traite en fait à des ateliers et elles sont absolument pas propriétaires de quoi que ce soit. Et ce soit pas, ce sont pas elles qui emploient les salariés dans ces sociétés-là. Voilà.
Donc ce sont des gens du local qui
voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont donneuses d'ordre. Elles passent des contrats avec des ateliers de confection. Et ensuite, c'est dans ces pays-là que la réglementation est en vigueur. Et donc, d'où la nécessité de faire respecter au moins ce qui existe au niveau de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail. Et puis même, essayons d'aller un peu plus loin et de leur demander qu'elles exigent des ateliers qui travaillent correctement,
dans des conditions correctes et une rémunération correcte si possible.
Tout à fait. Et que surtout, on n'ait pas de la main-d'œuvre enfantine qui travaille aussi pour la confection de ces vêtements à bas prix.
Et quand vous dites main-d'œuvre enfantine, c'est à partir de...
Il y a des très jeunes, il y a des 6, 7, 8 ans qui vont faire des petites choses, transporter des petites choses et puis commencent à apprendre à coudre et puis voilà.
C'est monstrueux.
Voilà. Et quand on a eu des luttes avec des mises en cause de gouvernement pour qu'ils appliquent de meilleures lois du travail...
Les gouvernements donc...
locaux.
Oui.
Eh bien, les sociétés ont aidé, on va dire, des ateliers de confection à se créer ailleurs.
D'accord.
Donc, elles sont plus forcément, on va dire, uniquement vers le Bangladesh, mais maintenant, on en a retrouvé vers le Maroc, on en trouve dans d'autres pays africains, on en trouve également du côté de la Birmanie, etc. Voilà, donc elles ont cette tendance, étant multinationales, et n'étant pas attachées, puisqu'elles ne sont pas propriétaires de ces ateliers.
Oui, d'accord.
C'est très flexible d'aller passer un contrat ailleurs. Et donc, on essaie donc depuis quelque temps de faire plutôt donc des réunions via Internet pour justement pouvoir
contacter le plus de monde. Enfin,
voilà, pouvoir associer des gens d'un peu partout. Et puis ne pas mobiliser trop de temps. Si on faisait une conférence nationale quelque part, ça serait un peu chronophage. Donc, l'année dernière, par exemple, on avait également associé des femmes d'associations féministes espagnoles.
Oui.
Qui se faisait le porte-parole des femmes marocaines
qui
viennent travailler en Espagne, par exemple.
C'est uniquement dans le domaine de la confection ou c'est
pas
aussi
du tout.
Les cueillettes des fruits.
Voilà, on s'est élargi bien évidemment à toutes les exploitations.
Oui, parce que ça aussi, ils sont accueillis dans des conditions pas très confortables, avec des horaires pas possibles et payer pas grand-chose.
Tout à fait. Et en plus, en tant que femme, elles subissent des harcèlements sexistes et sexuels.
Oui,
fréquemment.
En plus, d'accord.
Contre lesquels elles n'ont pas beaucoup de pouvoir pour résister et dire ce qui s'y passe.
Oui, d'accord.
D'où la nécessité d'avoir des associations locales, donc là, espagnoles, qui parlent pour elles. Mais on a également, bien évidemment, les associations marocaines de défense des droits des femmes qui également seront là pour témoigner des exploitations. Et notamment, il y a également, donc, comme je le disais, des ateliers de confection au Maroc. Et il y a 2 ans, un immeuble qui abritait un atelier en sous-sol a été inondé. Et malheureusement, on a dû compter encore là des victimes, des victimes de la confection encore.
Donc, qui dit en sous-sol, dit au niveau de l'aération et tout ça, des conditions déplorables, il faut dire les choses comme elles sont.
Tout à fait. Des exploitations à tous les niveaux, en termes de.
Est-ce qu'au niveau. Alors, je ne sais pas si ma question est pertinente ou pas. Est-ce qu'au niveau des grandes associations comme l'ONU et tout ça, est-ce qu'il y a. Est-ce que vous avez une aide? Est-ce qu'ils s'en emparent? Est-ce que... Je ne sais pas, c'est une question que je pose peut-être...
Il y a souvent, des associations, comme Action Aide, qui va accompagner les démarches par rapport à des revendications, juridiques pour l'application des droits internationaux du travail, par exemple.
Ouais.
Voilà, c'est plutôt ce genre d'association qui va mettre à disposition... des demandeurs et des demandeuses de la compétence juridique internationale,
par exemple. Et oui, parce que c'est pas...
Il faut savoir faire.
Ce n'est pas idée, ça. En plus, voilà. C'est très compliqué, c'est toujours compliqué.
Pouvoir avoir accès à des avocats qui auraient effectivement
qui connaissent les dossiers, qui connaissent les lois de chaque...
C'est ça, qui ont la compétence et qui osent, parce que dans certains pays, c'est tellement compliqué aussi.
Oui,
d'être avocat
d'oser dénoncer, bien sûr.
Et donc, on en a certains qui ont été un peu loin et qui se retrouvent réfugiés dans des pays européens. Voilà. Uh-huh. Un des combats également, ça va être, on va en reparler cette année, du non-respect des conditions qui devraient être respectées de travail, mm-hmm. notamment en Turquie.
Mm-hmm. Oui, il y a beaucoup d'ateliers de confection en Turquie aussi.
Voilà, il y en a beaucoup. Et là, depuis 2 ans également...
Et là, c'est pas trop difficile avec le gouvernement Erdogan.
Oui, si, c'est compliqué. C'est compliqué. Et on a là...
En plus, la Turquie, il y a une position, je parle au niveau international, un peu bâtarde, entre guillemets, quoi. J'essaie d'être en bon terme avec tout le monde. J'essaie de tirer les ficelles de...
C'est compliqué dans la mesure où ils assurent l'accueil de beaucoup de migrants.
Mmh. Et oui.
Et que donc, malgré tout ce qu'ils ne respectent pas par ailleurs, il n'y a pas beaucoup de leviers pour faire pression.
Parce
qu'ils menacent constamment de lâcher les migrants si on leur impose
certaines réglementations.
De respecter ceci et cela.
Bon, voilà. C'est quand même terrible parce qu'il s'agit d'êtres humains. Ce n'est pas simplement des marchandises. C'est ça qui est terrible.
Et donc là, on a le cas en Turquie d'une société qui travaille en fait là pour dans la cosmétique, qui travaille mm-hmm. pour Yves Rocher.
Diable.
Et qui avait menacé de mettre donc de licencier de façon brutale des femmes qui osaient vouloir s'organiser en syndicat. D'accord. Alors que c'est totalement légal de créer un syndicat en Turquie.
Oui, voilà. Ça avait été un pays qui avait été socialement à une époque assez, peut-être pas à la pointe, mais enfin qui avait fait des progrès.
Voilà, et qui de toute façon respectait les lois internationales.
Oui.
Et on voit bien par exemple que, alors que ça a été signé à Istanbul, ils ont retoqué donc la Convention d'Istanbul.
À leur manière.
Voilà, qui devait protéger au niveau international avec des droits partagés les femmes. Mmh. Les femmes victimes de différentes violences ou inégalités.
Mais pour Yves Rocher, donc, qui a, en France, enfin en Bretagne, c'est quoi qu'il faut faire en Turquie ?
Je ne sais pas exactement quels sont les produits.
Ce sont les emballages.
Non, il me semble que c'est carrément des produits.
Les crèmes, en fait.
J'ai pas exactement les produits qu'ils fabriquent, mais il me semble que c'est vraiment des produits qui sont fabriqués là-bas.
Ça alors, je n'avais pas.
Voilà. Et donc du coup, on a été aussi alerté à la fois par les réseaux féministes que nous connaissons en Turquie.
Oui, dans différents.
D'accord. Et à la fois des syndicalistes d'Yves Rocher.
D'accord.
Ici sont solidaires de ce qui se passe ailleurs dans les produits qui sont fabriqués tout à fait, pour Yves Rocher. Mmh. Voilà, donc on essaie aussi de rendre compte de cela et d'alerter les consommatrices.
Oui, c'est surtout ça. Ici, comment le faire savoir parce que moi, Yves Rocher, c'est ça, j'avoue que autant pour les vêtements, je le savais. Mais Yves Rocher, j'étais complètement...
Et donc, on avait fait déjà l'année dernière un événement à midi 30, devant les magasins Yves Rocher au centre-ville de Toulouse.
D'accord.
Pour faire connaître...
La réalité.
Voilà, cela. Alors, nous, ce qu'on ne veut pas, c'est culpabiliser les acheteuses et acheteurs en France.
Mais c'est faire savoir que...
Voilà. Si on paye si peu cher...
Certaines choses,
il faut savoir dans
quelles
conditions...
Que derrière, il y a la misère.
Voilà, c'est fait.
Et l'exploitation.
Complètement. Mmh. Mais maintenant, c'est pas à chacun forcément d'arrêter d'acheter, parce que compliqué d'arrêter d'acheter des vêtements à bas prix alors qu'on n'a pas plus d'argent dans son porte-monnaie. Mmh. Mais peut-être se poser la question de...
De quoi a-t-on besoin vraiment ?
Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller acheter ça aujourd'hui ?
Qu'est-ce qu'on peut transformer éventuellement ? Enfin, je ne sais pas.
De quelle manière on peut cesser... de subir leur système qui est de surproduire des vêtements en sachant pertinemment que ce ne sera pas consommé, mais ça répond à leur système de renouvellement permanent des rayonnages pour que finalement on finisse les uns ou les autres par succomber et acheter quelque chose. Mmh. Et par rapport au respect de la planète, des matières premières,
c'est la catastrophe.
On espère que là, il y aura des prises de conscience, notamment chez les plus jeunes.
Non, mais là, c'est une catastrophe d'un point de vue...
pour modifier la façon de consommer.
C'est terrible, quoi. Est-ce que vous travaillez ces relations avec le ministère ministère des Affaires étrangères ou pas? Par rapport, comme ça, quand vous voulez aller dénoncer des choses...
Pas à notre niveau. Pas à notre niveau. Le principe, c'est de voir comment les femmes, localement, veulent poser les revendications par rapport à leurs droits.
D'accord.
Et ensuite, essayer de voir, effectivement, de façon un peu complémentaire, comment on peut les épauler. Mais on ne prend pas ce type d'initiative de nous-mêmes.
Oui, non, d'accord. Et donc, lundi 24, c'est 12h ou 12h30?
Alors, on va démarrer à 12h30. D'accord. Voilà, on peut commencer à se connecter vers les 12h pour être sûr qu'on n'a pas un petit problème technique. Et donc là, nous aurons une correspondante féministe qui sera au Bangladesh. Donc, on va assurer la traduction. On aura une représentante donc, d'Action Aide qui assure l'accompagnement, on va dire, juridique de par le monde. On aura des femmes féministes marocaines qui participeront pour témoigner ce qui se passe au Maroc ou ce qui se passe pour les saisonnières marocaines en Espagne. Voilà. Et puis après, on espère avoir de façon un peu plus spontanée, bien sûr, des auditrices, mais aussi des participantes peut-être syndicalistes dans le commerce. Voilà, on serait très intéressés de pouvoir avoir ce complément entre des témoignages de ce qui se passe ailleurs, mais également des témoignages qui se passent ici.
Oui, parce que je suis en train de penser, mettons, je pense aux vendeuses qui sont, je sais pas, Zara, peu importe, quelle est leur, comment dire, sont-elles conscientes de ça, de ce qu'elles proposent à la clientèle, que derrière leurs consoeurs sont exploitées, sont...
Bien évidemment, bien évidemment.
Est-ce qu'elles peuvent, parce que bon, le droit, certes, du travail en France est différent qu'au Bangladesh, mais en fait, c'est pas non plus tout est pas rose, on s'en fout. Est-ce qu'elles ont le droit de le dire ouvertement? Est-ce qu'elles peuvent...
Au moins, si elles sont syndiquées, les syndicalistes ne se gênent pas pour porter ce genre
de revendications
en solidarité,
et de témoignages.
Voilà, en solidarité avec les femmes qui travaillent ailleurs pour les produits qu'elles vendent ici. Voilà.
Parce que même moi, pour avoir comme ça discuté avec quelqu'un qui avait travaillé chez NAFNAF, je ne veux pas faire de publicité, mais en tant que vendeuse sur un certain ton, et en fait, elle m'avait expliqué qu'au niveau de la vente, vraiment, elles étaient, harcelées, c'est peut-être harcelées, mais en fait, qu'on leur dit oui, il faut faire en sorte que quand une personne rentre, elle achète quelque chose.
Bien sûr.
Il y avait tout un protocole, il fallait qu'elle dise bonjour d'une certaine manière. C'était quand même
toutes les techniques de vente qui font que quand vous êtes rentré, vous devez sortir avec au moins un article.
Voilà, sinon qu'elle se faisait, t'as pas atteint aujourd'hui, mais c'est quand même assez extraordinaire.
Oui. Elles-mêmes sont dans des situations très compliquées de travail.
Voilà, et puis même financièrement, c'est pas non plus...
Elles ont une éthique en se disant « j'aimerais travailler ailleurs et ne pas vendre ça
»,
quelles possibilités elles ont effectivement pour aller travailler ailleurs? Comment elles ont accès à une autre formation? Elles ont accès à un autre emploi? C'est pour ça qu'il ne faut pas culpabiliser forcément les personnes, parce qu'elles sont toutes prises dans un système.
Dans un engrenage.
Voilà.
Mais c'est de faire savoir les choses pour que tout le monde puisse se réfléchir.
Voilà.
Et fasse évoluer les choses.
Moi, je pense qu'avec la situation de l'inflation, etc., c'est quand même très compliqué aux gens de leur dire, écoutez, payez 5-6 fois le prix d'un t-shirt pour être sûr qu'il est éthique, qu'on a du coton éthique, qu'on a une fabrication éthique, qu'on a des transports raisonnés.
Ça fait beaucoup.
C'est
à la
très
fois.
Compliqué. Donc moi, dans l'absolu, bien évidemment, moi, ce que j'espère, c'est que chacun et chacune va se dire...
Près de conscience.
Est-ce que j'ai besoin d'acheter encore ça?
Oui.
Est-ce que je peux passer l'été avec ce que j'ai?
Oui, d'accord.
Et j'achèterai peut-être quand vraiment j'aurai besoin. Oui. Essayons, voilà.
Oui,
c'est peut-être ça notre possibilité d'action.
Le levier.
Parce que c'est vrai que quand on voit des jeunes ados à Primark, par exemple, à 15-16 ans, ils repartent avec des paniers pleins.
Mais il n'y a pas que les ados, parce que moi qui habite en centre-ville, dont je passe souvent, et il y a des gens de tout âge et de toutes conditions socio-culturelles.
Voilà.
C'est pas que...
Mais tout est fait pour que vous soyez charmés, que vous ayez envie d'y repasser tous les 10 jours, parce que les rayons vont changer tous les 10 jours.
Tous les 10 jours.
Quasiment,
Là, c'est fort.
Et ensuite, quand vous voyez les tonnes de vêtements neufs qui sont en fait jetés.
Oui, qui partent à la poubelle.
Et qui sont dans ce système de vente. Il faut proposer beaucoup pour donner envie d'acheter un peu.
Oui, pour un choix, voilà.
C'est là que je me dis, chacun, chacune, on peut agir sur ça, sur sa façon d'acheter.
Oui.
Maintenant, pas culpabiliser parce que j'achète un t-shirt à 6 euros parce que je n'ai pas les moyens.
Oui, non, mais
quand
ça,
j'ai besoin d'un t-shirt, de l'acheter plus cher.
Oui.
Mais essayons de se dire, achetons moins.
Mais c'est pareil aussi pour des trucs d'électroménager, enfin, et même des radios, enfin des petits postes radio, enfin des, ce genre de choses, quoi, des téléphones aussi.
Mais les téléphones, est-ce qu'on a besoin d'en changer tous les combien? Voilà.
Alors que oui, les, comment dire, moi je sais qu'une fois j'avais été faire réparer, je sais pas, j'avais demandé, j'avais un truc qui clochait dans mon smartphone, et que la personne m'avait dit, mais de toute façon vous l'avez pour 2 ans. Je lui ai dit, croyez, je l'ai encore, il a fait plus de 2 ans, donc je suis très contente. Mais c'est dans leur logique, quoi, aussi.
C'est ça.
Et ça aussi, les conditions, plus les matériaux, ce sont des matériaux rares, dangereux pour la santé aussi de ceux qui les manipulent, parce que ce n'est pas toujours dans les conditions non plus les plus sécurisées.
Et puis, voilà, quand on sait de quelle manière les matériaux rares dont on a besoin pour les fabriquer sont collectés.
Oui.
Pensons à la République démocratique du Congo, avec ses mines, où femmes, hommes et enfants sont exploités, avec, on va dire, des espèces d'armées privées qui font la guerre pour avoir la mine d'à côté. Enfin, c'est terrible.
Plus, oui.
Alors, bien évidemment, du jour au lendemain, on ne va pas se passer des téléphones, mais posons-nous la question de quand de on façon, a besoin de le changer.
Oui, et de façon plus éthique et... Oui. C'est tout un ensemble. Donc, pour revenir à lundi, dans ce que vous appelez webinaire, c'est ça?
Voilà, parce qu'on sera chacune avec un téléphone, un ordinateur, en visioconférence.
D'accord. Et comment faut-il faire? Il faut taper Marche mondiale des femmes, c'est ça?
Non, il vaut mieux aller sur le site de Caravane, qui nous accueille et qui organise. Donc,
Caravane avec un K.
Voilà, avec un K et sans E, qui est donc une association sur Empalo, et qui nous accueille et qui participe avec nous à l'organisation de ce webinaire. Et quand on va sur Caravane, avec 24 avril 2023, on trouve exactement tout le lien sur lequel il suffit de cliquer. Il n'y a pas besoin de télécharger quoi que ce soit. On clique juste sur le lien. Mm-hmm. À partir de 12h, 12h30, on pourra participer à cette visioconférence qui va durer à peu près 1 heure.
Mm-hmm. Voilà. D'accord.
Et on espère qu'on sera nombreux et nombreuses pour faire la situation, le point de façon plus globale possible.
Oui, oui.
Bon, poser des questions sur lesquelles moi, je n'ai pas forcément de réponse.
Oui, oui,
je
ne
suis
pas
une experte de la question.
Oui, oui.
Mais à force, on aura plusieurs participantes et on pourra avoir une vision globale des situations d'exploitation via les multinationales sur lesquelles nous, ici, nous achetons les produits et sur lesquelles il faut être alerté sur la manière dont effectivement
tout tout fonctionne. Mais ça dure depuis un certain temps.
Voilà, et ça se poursuit.
Et elles ont essaimé, si je puis dire.
Un peu partout sur la planète.
Et puis oui, comme qui dit multinationale, il y a des fois des choses qui n'ont pas grand-chose à voir, mais qui possèdent différents trucs, y compris des fois dans la presse. Enfin, c'est... Il y a beaucoup de... Donc ça, c'est lundi, rendez-vous lundi 24 à 12h, donc sur le site de Caravane.
Voilà, pour pouvoir participer à cette conférence. Mm-hmm. Voilà. C'est plutôt cet échange. Mm-hmm. Voilà.
Et pour savoir comment il est possible d'améliorer, disons.
Voilà, et puis de connaître effectivement...
Les dessous.
Les problématiques que les unes et les autres vont révéler ou annoncer ce jour-là.
Bien sûr.
Et peut-être de quelle manière on peut les aider, elles nous le diront aussi ce jour-là.
Mm-hmm. D'accord.
Notre principe est de ne pas parler à la place d'eux.
Oui, oui, c'est de faire parler les personnes concernées.
Voilà, les personnes concernées qui puissent actualiser
qui peuvent
la
témoigner.
Situation.
Oui, oui. Voilà. Et quand vous m'avez dit tout à l'heure les femmes marocaines, est-ce qu'après, dans la mesure où elles parlent comme ça via le web, est-ce qu'elles, éventuellement, elles peuvent avoir des soucis, entre guillemets?
Jusqu'à présent, ce sont des associations de féministes marocaines
qui sont bien implantées,
qui existent depuis longtemps et qui ont trouvé leur marge de manœuvre.
D'accord. Non, mais c'est important de...
Oui. On n'a pas des femmes en situation de difficulté qui seront directement au micro, je ne crois pas.
D'accord.
Mais au moins, on aura des associations qui les représentent.
Qui les représentent et qui les défendent et les aident
à
faire reconnaître leurs droits, quoi.
Tout à fait.
D'accord. Je vous remercie infiniment.
Bah, merci beaucoup d'avoir ouvert votre micro.
Non, c'était normal, je trouve qu'il faut le faire savoir. Quoi. C'est...
Voilà, et d'être le relais. Et puis, jusqu'au jour où on n'aura plus besoin de le faire, mais sinon, l'année prochaine encore.
Ah oui, parce que là, ça va pas aller aussi vite, effectivement.
Merci beaucoup.
Merci infiniment. Au revoir, à plus tard.
Au revoir, merci.